Les agents du neuf, proposé par Pierre Invest avec Marc Julien.
Bienvenue dans les agents du neuf, nouveau numéro pour notre plus grand plaisir. Marc Julien, président fondateur de Pierre Invest, est avec nous. Bonjour Marc.
Bonjour Christophe.
Comment ça va?
Bah écoute, on est en pleine forme avec l'ouverture des terrasses, on est tous très joyeux.
Ça y est, on y est. Hein. Bon, c'est encore 50%, c'est pas encore 100% de la terrasse, mais quand même, il faut réserver. Hein.
Mais 50% des terrasses, mais moi je suis à 100%.
C'est l'essentiel quand même. Hein. Bon, tout va bien parce que vous m'avez manqué là pendant quelques semaines.
Ben oui, oui, oui. Mais...
Bon. On va parler aujourd'hui de la distribution de l'immobilier neuf et plusieurs invités sont autour de la table, bien sûr, je les présente. Sarah Imisch, directrice marketing et communication, Valorissimo, bonjour.
Bonjour Christophe.
Merci beaucoup d'être avec nous, bien évidemment. Justine Chamaret, responsable des ventes partenaires résidentielles chez Immobel France. Bonjour,
bonjour
et merci d'être là.
Merci.
Et puis Fabien Acerbis, qui est directeur général Immobel France également. Merci également d'être autour de cette table aujourd'hui. On va commencer par le point d'actualité de notre ami Marc Julien, bien sûr. Il donne le « là », Marc, à chaque émission. Tiens, on va parler donc de la distribution et de l'adaptation de la distribution en cette période de crise de l'offre. Comment ça se passe?
Comment ça va se passer? On sait très bien que les promoteurs ont besoin de s'adapter à leur niveau de vente d'immobilier neuf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a eu une période très troublée puisqu'il y a eu le confinement, il y a eu les élections municipales, des difficultés d'obtention de permis. Donc, il y a eu une baisse drastique de l'offre. Donc, souvent, les gens confondent baisse drastique de l'offre et ils se disent « Mais je ne comprends pas pourquoi les prix continuent à augmenter. » Tout simplement qu'on est dans un monde économique d'équilibre. Et donc, s'il y a une baisse de l'offre, même si la demande baisse un petit peu, au final, il y aura plutôt une inflation, puisque le niveau de l'offre n'est pas suffisant à satisfaire la demande.
Assez d'offre et trop de demande. Voilà.
Alors, ce qui est important, c'est qu'est-ce que la distribution a à voir avec ça? Tout simplement, c'est que dans ces moments-là, les promoteurs se sont retrouvés forcément avec du personnel où ils n'avaient pas forcément de quoi les alimenter, notamment dans les bureaux de vente et tous les systèmes de vente. Donc, pour la plupart, ils ont réduit leur vente directe. Et je pense que la distribution va avoir un rôle d'assistance, de service auprès des promoteurs pour leur permettre d'accompagner ce niveau de reprise qu'on espère tous, hein, pour revenir à des niveaux conformes à ce qu'on a connu en 2018-2019, qui étaient des très bonnes années. Donc voilà où on
Mais la reprise sur le neuf, vous la sentez venir quand même ou...
Alors, vous savez, on ne peut pas à long terme avoir un déficit de construction immobilière. Donc là, le gouvernement a retardé un petit peu l'application de la RE 2020 pour donner un peu de flexibilité. Il l'a reporté au 1er janvier 2022. Et en fait, je pense que mécaniquement, il manque une centaine de milliers de logements par an. Donc, il n'y a pas de. Je pense que le gouvernement va un peu faciliter. Il y a eu quelques mesures, hein, notamment le fait de ne pas pouvoir attaquer les permis plus de 10 mois, en principe. Après, il y a l'application sur le terrain. Et les maires, maintenant, ils sont élus. Donc, quelque part, il y a la campagne électorale et il y a la réalité économique. Il faut bien qu'il y ait des emplois. Il y a eu une percée écologique. Donc, il faut qu'on trouve le bon équilibre entre de l'écologie, on va dire, de bonne qualité.
Réaliste.
Et les promoteurs, je pense, ont fait beaucoup d'efforts, on en parlera peut-être, pour avoir des bâtiments plus vertueux.
Non, mais vous parlez des maires et on va parler de la distribution, évidemment. Mais c'est vrai que sur Radio Immo, on a eu une info en exclusivité il y a deux semaines maintenant avec l'adjoint au maire de Bordeaux chargé du logement qui a annoncé donc sur cette antenne la diminution du nombre de logements neufs de 4000 à 3000. Et c'est vrai que c'est un vrai problème dans beaucoup de communes. Voilà, c'est une réalité. Alors, est-ce que la distribution peut aider dans cette période un petit peu compliquée? On commence avec Sarah Imisch, Marc?
Tout à fait. Donc, Sarah, qui représente donc quelqu'un d'original, elle va nous le présenter, qui est Valorissimo, qui était issu en fait du monde de Bouygues Immobilier et qui a pris son envol en tant que filiale à part entière de la maison mère. Donc elle va nous expliquer déjà qu'est-ce que vous pouvez présenter Valorissimo, s'il vous plaît.
Alors, merci Marc. Valorissimo, c'est une place de marché B2B et digital qui adresse aujourd'hui d'un côté les prescripteurs. On a 2600 partenaires prescripteurs, l'équivalent de 12 000 conseillers qui sont à la recherche pour trouver rapidement le lot qui correspond aux besoins et à la demande et aux projets de vie de leurs clients. Et d'un autre côté, on a une soixantaine aujourd'hui de promoteurs qui, eux, commercialisent leur logement, leur offre de logement neuf à travers Valorissimo. Et du coup, au-delà de cet aspect digital que représente Valorissimo, et Marc-Julien, tu connais ça mieux que moi, il y a aussi l'aspect humain. Dans ce métier qu'est la distribution, l'aspect humain, il est extrêmement important et la confiance est la clé. Et c'est pour ça que Valorissimo est également une structure humaine qui vient accompagner ses partenaires à la fois sur la partie front, conseil, où trouver la bonne offre au bon prix pour le bon client, mais également d'un autre côté, l'administration des ventes. Et on sait pertinemment que le parcours de réservation, c'est également un parcours de combattant qu'il faut qu'il soit extrêmement fluide et fiable pour le client.
Ce qui est intéressant, Sarah, en fait, c'est que dans la distribution, on pourrait croire que les plateformes sont un intermédiaire supplémentaire mal vu par les distributeurs. Et en fait, ce n'est pas vrai. Parce que, en tout cas, quand il a une vraie valeur ajoutée, certains, en tout cas CGP de moindre taille, n'ont pas du tout d'organisation ADV. Et parfois, je me souviens les enfers qu'on pouvait avoir avec des contrats de 150 pages. Et la digitalisation a fait vraiment beaucoup de bien dans l'expérience même du client qui achète. Parce qu'on pouvait passer une heure et demie à faire une signature, ce n'est pas passionnant pour le client qui achète. Et c'est là où, justement, les plateformes peuvent avoir un rôle.
Et c'est exactement ça. Et d'où le fameux parcours de réservation avec les 150 pages. Aujourd'hui, et heureusement, on va de plus en plus vers la signature électronique. Mais ceci n'empêche qu'il y a 150 pages électroniques à signer.
Voilà, mais c'est plus rapide pour le client. Après, toujours le risque, c'est qu'il ne les lise pas. Mais ça, c'est un autre sujet.
Clairement.
Que les assurances.
C'est un peu comme les programmes électoraux, ça.
Mais les assurances, d'ailleurs, ont eu une réglementation supplémentaire où ils doivent non seulement faire les 150 pages, mais une synthèse des 150 pages. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la synthèse, ils peuvent être poursuivis. Donc peut-être que l'immobilier, on finira par avoir une synthèse des 150 pages. Après, ça pourrait être les conditions particulières qui sont les plus importantes. Alors, ce qui intéresse nos auditeurs, c'est comment s'est passée en fait cette évolution de, on va dire, plateforme destinée aux partenaires de Bouygues à cette plateforme multipromoteur. Comment la mue s'est effectuée, on va dire.
En fait, le passage et la décision de se dire on passe d'une offre exclue purement Wigimo à une place de marché, c'est parti de trois constats. Le premier, c'est la demande de nos partenaires. Du coup, on s'est rendu compte que finalement, nos partenaires ont besoin de plus, ce qu'on appelle dans le jargon, plus de stock, plus d'offres dans un marché en pénurie. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est que finalement, structurellement, ce marché va se structurer autour des places de marché. Et Valorissimo avait les atouts et a toujours les atouts pour devenir une place de marché qui, une recette digitale qui marche bien, parce que finalement, Valorissimo avait un site qui adressait ses partenaires et qui était un site à succès. Deux, une culture promoteur forte, parce que pour être une place de marché humaine et digitale à la fois, il faut également accompagner les promoteurs. Et cette culture...
Je pense que cette connaissance des promoteurs, parce que c'est quoi une connaissance des promoteurs ? C'est comprendre ce que c'est qu'un directeur de programme.
C'est ça.
Moi, pour avoir 15 ans dans ce métier... J'ai vu que dans certains promoteurs, le roi, c'est le directeur de programme. Ce n'est pas forcément le directeur commercial. Et c'est là où, justement, cette relation que vous avez connue chez Bouygues, qui est peut-être là où c'est le plus marqué, cette culture, a dû vous aider chez d'autres promoteurs.
Exactement. À accélérer, en fait, la collaboration et le partenariat avec le promoteur, parce qu'on parle un, leur langage, et on connaît leurs enjeux. Et en effet, au-delà aussi on connaît le rythme de commercialisation d'un promoteur, quand il a un lancement, de quoi il a besoin, quand il est en fin de commercialisation, il a besoin en effet d'aller vite sur le stock, post-livraison, etc. Tous ces enjeux de commercialisation et de conception de grille de prix, c'est un métier à part entière, et Valorissimo a cette culture et cette connaissance, et dans la relation de partenariat avec le promoteur, on a une fluidité dans le langage et dans les aspects, et même c'est accompagné d'ailleurs avec la création d'une direction développement, à sa tête Yannick Chalard, qui vient du métier du promoteur et de la promotion immobilière, et qui a également un rôle de conseil auprès du promoteur, qui a un lancement.
C'est lui qui chasse les mandats, en fait.
Exactement, exactement. C'est une femme, si elle m'entend.
Bah c'est lui ou c'est elle, ça ne change pas, ça ne change pas le métier.
Ça ne change pas le métier, ça c'est clair et net.
Donc c'est une chasseuse au mieux d'être un chasseur. C'est
exactement, une très très bonne chasseuse et qui accompagne aussi pour la définition du grille des prix. Certains promoteurs nous font confiance en nous disant, si je fais ce positionnement de prix, est-ce que vous pensez que le taux d'écoulement va suivre, etc. Et on apprécie énormément ce rôle de conseil qui vient bien évidemment et naturellement de notre rôle.
Alors on va essayer, parce que c'est une émission au format court et j'en suis désolé. Moi, je voulais avoir un peu votre commentaire, parce que vous êtes très présent auprès des banques, un peu dans cette évolution. Vous m'avez parlé, je crois, de 2600 ventes de réservations que vous avez faites. Combien à l'année ça représente?
Alors,
2020
en moyenne, on fait dans les 4000 réservations par an.
2020 était moins bon que les autres années.
Bien évidemment.
Ça, non, c'est une surprise, ça, tu vois.
Non, 2020, malheureusement, n'était pas
c'était
une
là
année.
Ou c'était 2006 ou c'était...
C'était 2019.
4000
exactement.
Et 2020 autour de 2600
On a subi, comme tout le monde, une baisse d'à peu près 20%.
D'accord.
Qui représente le marché.
Donc plutôt 3002 ou quelque
exactement.
Chose comme ça.
Exactement.
Et taux de casse, question, taux de casse, c'est quoi 20%?
Le taux de désistement, on est autour de 20 et 25%.
Par bancaire?
Par rapport au bancaire,
ouais.
Ça c'est d'une manière générale. Sur tous nos partenaires, les bancaires sont, le taux de casse est inférieur.
Non, je parlais de le pourcentage des ventes par les banques.
Ah, chez Valorissimo. En fait, il n'y a pas un ratio
constant.
Tout dépend du programme en question, tout dépend également des enjeux des banques. En fait, on est une place de marché, du coup, on ouvre
Donc les banques ne sont pas aussi fortes que chez certains promoteurs où ils peuvent représenter 30-35%.
Justement, on a changé de métier. Mmh. On n'est plus un promoteur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est une place de marché.
D'accord.
Alors, on sert l'intérêt de tous nos partenaires.
Donc, vous adressez pas spécifiquement ce canal?
Si. Alors, les banques sont des partenaires chez Valorissimo. D'ailleurs, on a une diversité de partenaires qui va de des bancaires au CGP indépendant, comme
d'accord.
vous disiez tout à l'heure, des CGP qui commencent tout seuls et qu'ensuite ils recrutent et on les accompagne dans ce développement de l'activité et qui va jusqu'à le regroupement, etc. Les bancaires font partie de nos partenaires et en fonction des enjeux du promoteur, oui. des enjeux du contexte et des enjeux des banques, on va aller sur certains programmes ou pas et en mode place
d'accord.
de marché.
Bah merci Sarah, parce que je sais que tu pourrais en parler des heures, mais là le format va nous
ouais.
conduire vers notre...
Ah bon, on est déjà en retard, hein, mais bon, c'est pour le plaisir d'être ensemble quand même, donc je vous laisse la parole.
Alors,
avec,
notre...
Justine qui est avec nous, Chamaré.
Alors, on a deux invités chez Immobel. Peut-être la présentation générale d'Immobel, je laisserai le directeur général Fabien à service l'affaire, ce qui est plus logique, et on parlera de la distribution après avec Justine. Fabien, je crois que vous avez rejoint il y a un an et demi Immobel, un sacré challenge puisque ça, c'est la poursuite de Nafilian Partners qui avait été repris par Immobel, et ben, il faut tout monter pour être un promoteur d'une plus grande taille, donc les challenges tu dois aimer, puisque qu'en
oui.
est-il?
Alors effectivement, c'est un vrai challenge. Moi, précédemment, j'étais dans une belle boutique qui s'appelle notamment Bouygues Immobilier pendant 15 ans. Peut-être vous dire quelques mots d'Immobel, parce que tout le monde ne connaît pas forcément en France le groupe. Immobel, c'est un groupe européen qui est basé en Belgique, à Bruxelles, qui est coté en bourse depuis à peu près 60 ans, qui existe depuis 160 ans, je le précise bien. qui est présent dans 6 pays européens. Et les caractéristiques principales d'Immobel, il y en a d'autres, mais je vais donner l'essentiel, c'est plutôt d'être sur des grands projets, plusieurs dizaines, voire quelquefois plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. C'est beaucoup de restructuration. 50% du business d'Immobel est de la restructuration. Alors, pas encore en France, mais dans les autres pays européens, c'est le cas.
Voilà, donc il sera toujours le bienvenu, hein, puisque le neuf est le refait à neuf. Hein.
Oui. C'est... Grande actualité en ce moment. Oui,
hein. Tout à fait. Et puis, je pense que ça va le devenir de plus en plus. C'est un élément essentiel.
Les friches dans les villes et tout, il y a beaucoup à faire, oui.
Et on voit d'ailleurs le sujet des réinventer Paris, inventons la métropole, sur la transformation de bureaux en logement. On est axé principalement tertiaire et résidentiel, bien évidemment, et tout type de forme résidentielle. Et l'image de marque auquel tient d'ailleurs le président du groupe, c'est le très haut niveau de qualité de réalisation de produits qu'Immobel réalise maintenant depuis 160 ans. Et on compte bien effectivement en France. Alors en France, on est venu d'abord sur cette entité tertiaire. C'est ce qu'on a créé en premier. Et on est arrivé il y a 2 ans sur la partie résidentielle. Vous l'avez dit, par le biais d'une croissance externe, en achetant le promoteur Nafilland Partners, qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'on s'appelle Immobel France, tertiaire, Immobel France résidentielle. On est 80 collaborateurs en France. Et on est essentiellement dans une phase de développement. Alors vous allez me dire, ce n'est pas forcément simple de développer dans une période où on vit une crise sanitaire, où on traverse des échéances municipales, mais il y a encore des échéances électorales le mois prochain qui pèsent encore sur la raréfaction de l'offre.
Et la présidentielle à venir.
Et la présidentielle, c'est exact. Sauf que l'urbanisme et finalement l'immobilier, c'est essentiellement les élus locaux qui détiennent le pouvoir et pas forcément les élus nationaux. On le voit en ce moment notamment avec une volonté du gouvernement de construire davantage, ce que vous disiez tout à l'heure Marc.
La seule chose que peut agir le national, c'est par les préfets lorsque les quotas sociaux ne sont pas remplis. Et là, il peut taper un peu du poing sur la table puisqu'un préfet peut délivrer des permis de construire.
Et comme le Premier ministre commence à remettre en doute la préfectorale, alors on ne sait pas ce qui peut se passer là aussi, hein. Tout est possible.
Voilà, mais bon, il faut être optimiste parce que, moi, effectivement, je pense d'ailleurs pour être plus en phase avec la nouvelle mouvance écologique qui se dessine dans le pays, je pense que la rénovation pourrait faire beaucoup de bien parce que finalement, on a eu beaucoup de sujets là-dessus sur les centres-villes. Aujourd'hui, il n'y a pas de foncier dans les centres-villes, sauf si on rénove des bâtiments qui sont en mauvais état.
Bien sûr.
Et donc là, il y a un énorme potentiel. Et alors... Et donc, visiblement, Immobel pourrait être sur ce marché. Alors, on va avancer avec une deuxième question qui sera pour Justine et puis Fabien concluant. La question typique de la distribution qui est aujourd'hui, on en a parlé un peu hors plateau, mais comment peut se dessine dans les rapports que vous avez notamment avec Fabien la répartition de ce que vous pouvez proposer via vos partenaires et cette direction partenaire?
Alors, il n'y a pas de répartition type. C'est suivant les projets, évidemment. Il y a certains projets où on va faire appel à des réseaux, type Valorissimo, avec lesquels on travaille, où on va prioriser la vente interne et ouvrir sous forme de picking à des partenaires type CGP. Aujourd'hui, on a une force, c'est qu'on est capable de travailler avec des CGP indépendants, nous aussi, parce qu'on a un système de suivi d'ADV qui est bien ficelé, ou avec des gros réseaux qu'on sollicite également pour nous aider sur la communication, on valide les prix avec eux, etc. Donc c'est plutôt dépendant des fonciers sur lesquels on va aller, le type de projet. Certains projets vont être à même de nécessiter l'aide de gros réseaux pour un écoulement rapide, et d'autres où on va prioriser notre force de vente interne et certains partenaires. Dans l'ensemble, je dirais qu'on va être à 40% de vente externe, 60% de vente interne, si on lit sur tous les programmes.
Oui, ce qui est un bon niveau, puisque bon, souvent ça tourne autour de 30. Donc tout dépend évidemment de la stratégie de l'entreprise et s'il est en phase de croissance. Alors, on va parler, je crois qu'au niveau site extranet,
Bah, là aussi, il y avait tout à faire hein, sur la relation partenaire.
Je crois que ça doit...
Alors, c'est développé. On a effectivement créé une nouvelle plateforme, donc Logoté Immobel, 100% Immobel, qu'on a créée. On n'a pas acheté un outil.
Est-ce qu'elle est opérationnelle?
Elle est opérationnelle, tout à fait, aujourd'hui avec nos partenaires. Donc, on l'a vraiment créée toute pièce. On a essayé de...
Vous n'êtes pas passé par un prestataire de service comme beaucoup
On a créé notre plateforme, notre espace avec les outils qu'on souhaitait faire apparaître. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est que on n'ait presque pas besoin d'être sollicité, que tout soit sur le site, tout soit disponible. Donc, de la dénonciation à la réservation, le partenaire peut effectuer sa réservation seul. Bien évidemment, on reste en backup en cas de question, en cas d'accompagnement. Mais l'idée, c'est que tout soit disponible et que le site puisse être montré aussi en clientèle. Donc, que ce soit une interface qui serve aux conseillers aussi au moment de la vente.
Alors, je repassais la parole à Fabien avec une question. Il y a l'actualité que vous allez avoir sur des programmes, mais je voulais une question plus directe sur la distribution. Selon vous, qu'est-ce qui va faire que la distribution va avoir du succès chez Immobel? Quels sont, selon vous, les deux, trois premiers critères? Parce que j'ai mon idée, mais j'aime bien confronter les points de vue.
Alors, aujourd'hui, mais vous en parliez tout à l'heure... L'écoulement est toujours très bon, parce que l'offre se raréfie de plus en plus, et notamment en Ile-de-France. Nous, on est principalement présents en Ile-de-France.
Donc le succès vient que le conseiller n'a pas le choix, si je comprends bien.
Non, la demande est toujours présente. Et aujourd'hui, moi, je pense que le succès, mais que ce soit chez Immobel ou ailleurs, mais nous, c'est ce qu'on pousse de plus en plus, c'est la diversification de nos réseaux et de nos réseaux de commercialisation. Je pense que ce qu'on appelait avant la vente assise, par le biais de ce qu'on vient de vivre pendant un an, va devenir très vite obsolète. On va très rapidement faire uniquement de la vente debout et pas attendre le client et aller le chercher, le chaland. Mais le but dans notre métier, c'est d'avoir une rotation des affaires et d'avoir un bon écoulement. Donc plus on va diversifier, et notamment avec des réseaux comme Valorissimo ou d'autres, ou des CGP, plus on écoulera vite et plus, effectivement, on aura des nouvelles affaires. Aujourd'hui, le seul sujet, et Justine a raison quand elle dit c'est du cas par cas, on ne peut pas répondre. Nos projets sont tous différents. La première chose que je demande moi, aux équipes de regarder, c'est l'adéquation client-produit-prix. Et en fonction de cette adéquation, on définit la stratégie de commercialisation et donc de distribution.
D'accord. Donc, c'est intéressant. Du marketing en amont. OK. Donc, par rapport à une actualité produit, est-ce qu'il y a un programme qui va arriver dans l'un ou deux mois où c'est vraiment quelque chose que vous dites, ça va marcher auprès des distributeurs?
On a un gros projet qui arrive à Aubervilliers, courant juin. On est tout au nord d'Aubervilliers. C'est une petite verrue qui s'intègre dans Pantin, qui est anciennement la ZAC du fort. Donc c'était un fort militaire qui est complètement en restructuration. Donc il y a 32 000 mètres carrés, c'est un gros projet.
Et vous allez garder
projet.
Quand même l'aspect fort militaire? Vous allez réussir à...
Il y a effectivement une partie qui va être conservée pour faire des espaces d'échange artistique, un
ce
espace...
Ce que j'aime bien, parce que je suis à côté de quelqu'un qui fait du marketing, le mot verrue, ça va être plutôt sur le passé. Et je pense que le marketing va transformer la verrue en quelque chose de magnifique. C'est ça le don du marketing. Mais par contre, je peux vous confirmer, quand vous dites au nord d'Aubervilliers, parce que par rapport à Paris, parce que déjà Aubervilliers au nord, donc ça veut dire plutôt près de la 86 que...
Exactement. On est vraiment limitrophe de Pantin. Et on a l'avantage de cette commune d'Aubervilliers qui est aujourd'hui la commune la moins chère, la seule commune limitrophe de Paris qui est la moins chère. Donc on participe déjà
à ce
projet.
Qui est en zone abysse, mais attention, avec un plafond préfectoral de loyer, ce que peu de gens savent. Donc ils font beaucoup d'erreurs dans les simulations. Donc il faut faire attention, c'est autour de 14,50 € à peu près le plafond au mieux des...
Le mètre carré
au mieux des 18 avant coefficient de surface. Donc attention aux simulations, mais par contre je vous confirme que quoi, une centaine de lots?
Oui, même un peu plus, puisqu'on va avoir trois tranches différentes. Et là, on lance en juin 130 logements en accession.
Ah oui.
Donc,
et au total,
un beau projet. Et au total, alors on n'est pas les seuls promoteurs sur la ZAC, il y a d'autres promoteurs.
Non, mais dans les trois tranches, pour vous?
Dans les trois tranches, pour nous, il y a, je ne veux pas dire d'erreur, Fabien, mais il y a 200 logements.
Un peu plus de 200 logements.
Voilà. D'accord. Donc c'est la première tranche qui est la plus grosse, parce que 130...
On va très vite lancer même la deuxième tranche. La troisième tranche arrivera certainement en 2022 ou 2023. Ça reste à voir avec l'aménageur.
Bon, ben Justine va avoir plein d'amis, puisqu'avec ce gros lancement...
Bon projet, en tout cas.
Exactement.
Elle va retrouver... beaucoup d'appels.
Eh ben merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, hein, tous autant que vous êtes autour de la table. Je rappelle évidemment le nom et la fonction de chacun. Sarah Imige, directrice marketing Valorissimo, qui était avec nous. Justine Chamaret, qu'on vient d'entendre, responsable des ventes partenaires résidentielles France Immobel. Et puis Fabrice Acerbis, directeur général Fabien Acerbis. Directeur, bah Fabrice, c'est pas mal non plus. Non,
allez, Fabien. Vous n'êtes pas le seul. Hein.
Fabien a servi ça, mais ça m'arrange. Alors, directeur général Immobel France, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces agents du neuf, avec vous, mon cher.
Et le mot de la fin, c'est quoi? Ben, on va aller déjeuner sur une belle terrasse
C'est
pour vraiment profiter.
Un peu de rosé, mais avec modération, hein, quand même. À bientôt.
Les agents du neuf, proposés par Pierre Invest avec Marc Julien.